Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 20 décembre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran renforce sa puissance subsurface. L'Irak a fermé le passage utilisé par les Américains pour exporter le pétrole et le blé volé du territoire syrien vers les terres voisines. Et des attaques de bandits font plus de 20 morts dans le nord-ouest du Nigeria. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran renforce sa puissance subsurface. Lors d'une cérémonie en présence du coordinateur adjoint de l'armée et du commandant de la marine iranienne, les dernières réalisations en matière d'équipement naval de la marine ont été dévoilées. Lors de cette cérémonie, le destroyer Alvan ainsi que 4 sous-marins de fabrication iranienne ont été livrés à la marine iranienne. Le capitaine Pour Kazazi, le commandant des chantiers navals de la marine iranienne, a déclaré que la marine iranienne possédait des équipements militaires de pointe pour endiguer toute action hostile de l'ennemi. Conformément aux ordres du commandant suprême des forces armées, dans le cadre du maintien de la stabilité et de l'intégrité territoriale du pays, la marine iranienne a franchi sa deuxième étape en reconstruisant un autre destroyer naval lourd et a pu moderniser ses équipements militaires sans aucune dépendance aux fournisseurs étrangers, a fait part le capitaine Pour Kazazi. Ayant une vitesse de 36 nœuds, le destroyer Alvand pèse 1300 tonnes et mesure 150 mètres de long. Le processus de la conception et la mise à niveau des systèmes de propulsion et des systèmes de défense du destroyer Alvand a été achevé en 260 jours, nécessitant 46 000 heures de travail et remplaçant 41 tonnes de tôle d'acier, a ajouté le capitaine Pour Kazazi. Concernant la livraison de 4 sous-marins humides de type Sabahat 15, le capitaine Pour Kazazi a annoncé « D'une longueur de 8 mètres et d'un poids de 2,5 tonnes, le sous-marin Sabahat 15 est capable de rester en mer jusqu'à 10 jours et a pour mission de reconnaissance, de patrouille, de pénétration dans les quais de l'adversaire et de destruction de navires ennemis. La furtivité, la capacité d'effectuer des opérations nocturnes, la petite taille et l'efficacité élevée constituent les caractéristiques principales du sous-marin Sabahat 15, a noté le capitaine Pour Kazazi. L'Irak a fermé le passage utilisé par les officiers et soldats de l'armée américaine pour leurs activités commerciales, pour exporter le pétrole et le blé volé du territoire syrien vers les terres voisines. Des sources locales ont déclaré que les forces kurdes Peshmerga, affiliées au gouvernement régional du nord de l'Irak, ont fermé ce dimanche 19 décembre le passage terrestre illégal d'Al-Walid avec le territoire syrien, 3 jours après la fermeture de Fish Grabour à la frontière syro-irakienne, à l'extrême nord-est de la province syrienne de Hasaka. Les responsables du gouvernement régional du nord de l'Irak, du Parti démocratique du Kurdistan, ont pris la décision de fermer le passage illégal d'Al-Walid, qui est utilisé par l'occupation américaine pour faire entrer des convois militaires transportant du pétrole et du blé volé de la Syrie depuis la région de Jazir. Désormais, l'entrée de matériel par ce passage dans les zones sous contrôle des éléments inféodés aux États-Unis, dont les FTS, sera interdite. Les sources ont déclaré que de gros camions avaient transporté du matériel et des blocs de ciment pour fermer le point de passage d'Al-Walid, situé à 35 km du passage illégal de la rivière Semalka au sud-ouest du village de Souida et d'Al-Yaroubiya, dans la campagne d'Al-Malikiya, dans l'extrême nord-est de la province de Rasaka. Le passage d'Al-Walid a été ouvert il y a environ 4 ans par les forces de la coalition pour faciliter l'entrée de convois de fournitures militaires, l'exportation de convois de réservoirs de pétrole et de camions de blé volé et l'entrée de matériaux de construction, ciment, fer, etc. des bases de l'armée américaine dans l'est de la Syrie. La décision des responsables kurdes irakiens ne semble pas toutefois empêcher les occupants américains de mettre un terme à leurs activités illégales. Un nouveau convoi de 27 camions transportant des équipements militaires et logistiques est entré ce dimanche même via le passage d'Al-Walid en Syrie à destination de leur base militaire illégale dans la banlieue de Rasaka. Des sources locales de la banlieue de Yaroubiya ont fait savoir à la correspondante de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, qu'un convoi composé de 27 véhicules, dont des camions chargés de conteneurs fermés et ouverts, de camions frigorifiques et un certain nombre de camions citernes étaient entrés depuis le nord de l'Irak en Syrie pour s'orienter vers Rasaka. Le convoi était sous la protection des véhicules transportant des hommes armés et des FTS, forces démocratiques syriennes, qui sont soutenues par les USA. L'armée américaine avait aussi transféré la veille, samedi 18 décembre, un convoi de camions citernes avec du pétrole volé de l'est de la Syrie vers le territoire irakien via également le passage d'Al-Walid. La ministre française des Armées a déclaré que Paris ne voulait pas revenir à la guerre froide avec la Russie. La ministre française des Armées, Florence Parly, a déclaré samedi 18 décembre que les pays occidentaux pouvaient isoler politiquement la Russie si la situation autour de l'Ukraine s'aggravait, mais a ajouté que Paris ne voulait pas d'un autre scénario de guerre froide. Interrogée par le magazine Le Journal du Dimanche sur les mesures que l'Occident peut prendre contre la Russie, Parly a déclaré que certaines sanctions avaient déjà été imposées à Moscou, mais qu'elles pouvaient être renforcées. La Russie peut également être politiquement isolée, a ajouté la ministre. « Nous ne voulons pas revenir à la guerre froide », a souligné Parly. Ajoutant que, pour éviter ce scénario, les parties devraient rester calmes. Parly a également noté que Paris était favorable au maintien du dialogue avec Moscou qui a été initié par le président français Emmanuel Macron en 2019. D'ailleurs, dans le cadre de la rencontre entre les ministres russes et français de la Défense et des Affaires étrangères le mois dernier à Paris, nous avons utilisé l'expression de conséquences stratégiques et à grande échelle. Nous avons un dialogue ouvert et sincère avec les Russes car nous devrions pouvoir nous transmettre les choses directement, a déclaré Parly. L'Ukraine et certains pays occidentaux ont récemment évoqué le déploiement présumé de troupes russes près de la frontière ukrainienne et accusé Moscou d'actions agressives. La Russie a refusé toutes les allégations et a déclaré qu'elle n'avait l'intention de n'envahir aucun pays. Les allégations sont considérées par Moscou comme un prétexte pour envoyer davantage d'équipements militaires de l'OTAN aux frontières russes. Selon un responsable parlementaire russe, l'augmentation de la présence militaire de l'OTAN en Ukraine indique le plan de l'Alliance de l'Atlantique Nord d'utiliser le territoire de ce pays comme une plateforme visant à mener des actions offensives contre la Russie. Le sénateur russe Alexis Pushkov a annoncé dans une interview à la radio russe que l'expansion de la coopération militaire entre l'OTAN et Kiev était pratiquement une préparation à une guerre avec Moscou. Le haut responsable de la Commission des affaires internationales de la Douma d'État, le sénateur russe Alexis Pushkov, a déclaré que la présence militaire des pays membres de l'OTAN en Ukraine et près de la frontière russe était un motif de déclaration de guerre à la Russie. Si l'OTAN n'a pas l'intention d'utiliser le territoire ukrainien comme une plateforme pour mener des actions offensives contre la Russie, alors pourquoi a-t-il besoin d'accorder une adhésion officielle à Kiev? S'est interrogé Pushkov, soulignant que l'OTAN essayait d'imposer un dialogue à Moscou en position de force et de l'obliger à remplir les conditions de l'Occident, mais dans le même temps, des préparatifs militaires en Ukraine contre la Russie étaient en cours sous couvert d'un tel dialogue. des attaques de bandits font plus de 20 morts dans le nord-ouest du Nigeria. Plus de 20 personnes ont été tuées samedi 18 décembre lorsque des bandits ont attaqué plusieurs villages de l'état de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré dimanche un responsable local. Samuel Arouvan, le commissaire aux affaires de sécurité intérieure de Kaduna, a déclaré dans un communiqué que 4 villages de la zone administrative de Giva avaient été la cible de violentes attaques samedi soir. Les bandits ont notamment tiré indistinctement sur les villageois et incendié plusieurs maisons, a-t-il fait savoir. M. Arouvan a indiqué que le gouvernement de l'État avait immédiatement demandé une évaluation de la situation et une distribution d'urgence de matériel de secours dans les zones et les communautés affectées. Il a également promis que les agences de sécurité maintiendraient leur surveillance dans la région. Ces derniers mois, les attaques armées constituent une grave menace dans les régions du nord et du centre du Nigeria. Elles ont causé des morts et occasionné des enlèvements. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. L'Algérie a besoin des unités balistiques côtières. Le 12 novembre, la frégate Grigorovitch et le patrouilleur Dmitri Rogachev, ainsi que le bateau de sauvetage SP-742, sont arrivés au port d'Alger pour des exercices navals conjoints. Selon un communiqué diffusé le lendemain par le ministère de la Défense nationale, la flotte devait participer à l'exercice international dit Exercice naval interarmé 2021 avec des navires de la marine algérienne entrant dans le cadre de la concrétisation de la coopération militaire algéro-russe au titre de l'exercice 2021. Au programme de ces manœuvres qui se sont étalées sur une semaine jusque 20 novembre, figuraient des exercices de communication, des séances d'opérations conjointes, une formation des équipes d'inspection et un exercice de démonstration sur le contrôle des dommages. L'objectif étant, selon le MDAN, ministère de la Défense nationale, d'échanger les expériences et de consolider la coordination commune. Or, cet exercice, intervenu au plus fort des provocations israéliennes contre la paix et la stabilité au Maghreb, a fortement inquiété Washington. La manœuvre de la mer Noire est une réponse aux provocations des États-Unis et ses alliés de l'OTAN en mer Noire. Récemment, le navire de commandement Mount Whitney de la 6e flotte américaine a fait une irruption dans la mer Noire dans le but de provoquer la Russie, mais n'y est pas resté longtemps. Suite à quoi, la flotte russe de la mer Noire a envoyé des navires de guerre en Méditerranée pour effectuer des manœuvres militaires. Les autorités de la Maison-Blanche étaient très irritées par l'attitude de la Russie, mais cela a été ignoré. La flotte américaine fait tout pour contrarier les ambitions de la Russie en mer Noire. L'entrée des navires russes en Méditerranée, juste après les manœuvres américaines, est un coup dur pour la fierté des Américains et des membres de l'OTAN, écrivent les analystes chinois. Les analystes estiment que la colère de Washington ne changera rien, puisque la Russie est dans son droit de maintenir sa présence militaire en Méditerranée. Plus d'un mois après l'exercice naval conjoint Algérie-Russie, voici donc les Yankees tenter de tirer vengeance. Les États-Unis et le Maroc ont mené des exercices conjoints pour traverser le détroit de Gibraltar, auxquels ont participé le porte-avions Truman et son groupe de combat ainsi qu'une frégate de la Royal Navy. Alors qu'il se trouve dans la zone d'opération de la 6e flotte, le porte-avions USS Harry Truman opéra aux côtés des forces navales marocaines alliées qui leur sont associées par accord militaire en mettant l'accent sur les efforts de coopération en matière de sécurité pour promouvoir la stabilité régionale. Mais à quoi jouent les Américains ? Il va sans dire que le Maroc et ses côtes servent de prétexte à une démonstration de force anti-russe qui vise à faire le contrepoids à la présence permanente de la Russie dans deux de ses plus grandes bases extraterritoriales, à savoir Meymen et Tartous en Syrie. Or, cette présence en Méditerranée orientale tend, par Algérie interposée, à s'étendre vers l'ouest de la Méditerranée, ce que les Yankees ont du mal à accepter. Surtout que l'Algérie agit non pas en état satellite, mais à titre de puissance régionale, capable seule ou avec ses partenaires d'assurer la sécurité de la navigation. En été, deux sous-marins algériens ont chassé des eaux territoriales à deux fins espions israéliens, ce qui a prouvé la puissance et les capacités des forces navales algériennes à protéger l'intégrité navale du pays. Ceci étant, l'Amérique, architecte de la normalisation Rabat-Tel Aviv, pourrait souhaiter aller bien loin et créer pourquoi pas une base navale permanente à Dakhla. Cela veut dire à peu près que les Yankees, un peu à l'image du golfe Persique, pourraient chercher de la noise aux États non amis. Piratage de mer, détournement de pétroliers, attaque contre les pétroliers, etc. pourraient être à leur ordre du jour. Surtout qu'Alger a décidé de placer le Maroc sous blocus gazier. Alors, que faut-il surtout aux Algériens? Un A2 a des identiques à celles de la Chine ou de l'Iran. Des unités balistiques côtières, des unités de minage et des drones navals ou aéronavals performants.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les Émirats arabes unis qui avaient fait une commande de 80 Rafales, des avions de combat très sophistiqués auprès de la France, ont décidé tout d'un coup de céder une partie de sa flotte de Mirage à l'Égypte, mais également au Maroc. C'est une première, mais également, il faut également citer l'Algérie, qui a également cédé au charme de la vente d'armes par la France, qui a également commandé beaucoup de rafales à cette dernière. Alors, il reste à savoir comment cette vente d'armes très onéreuse, mais également parfaitement calibrée par la France, est poussée par Israël ou non. C'est ce que nous allons essayer de voir avec des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
Après avoir fait une commande de ferme de 80 avions de combat Rafale auprès de la France, les Émirats arabes unis s'apprêtent à céder une flotte de 68 avions de combat Mirage 2009 au Maroc et à l'Égypte. À l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron, les Émirats arabes unis ont signé un accord pour acquérir 80 avions de combat Rafale, indiqué l'Élysée dans un communiqué précisant qu'il s'agit de la commande internationale la plus importante jamais enregistrée pour cet avion de chasse mis en service depuis 2004. Cette commande vise à remplacer la soixantaine de Mirage 2009 acquis en 1998 par les Émirats et dont une partie sera transférée au Maroc et l'autre à l'Égypte. Le Mirage 2000 est la dernière version de ce type qui a été fabriquée en France pour l'UAE Air Force. L'avion est équipé des technologies très avancées qui lui permettent de mener des attaques aériennes de haute précision. Le Maroc est également sur le point d'acquérir 8 hélicoptères Caracal H-225M qui viendront s'ajouter à sa flotte militaire. Ce contrat, qui vient à point nommé la conclusion de négociations portant sur un contrat d'acquisition de 8 hélicoptères H-225M Caracal auprès d'Airbus Hélicoptères, ont réuni les parties marocaines et françaises. De son côté, le Maroc est déterminé à réaliser le plan de modernisation de son arsenal militaire qu'il a entamé ces dernières années, alors que le projet de loi de finances marocain pour 2022 a alloué 12,8 milliards de dollars pour l'achat et la réparation d'équipements pour les forces armées royales marocaines.
Voilà pour le reportage. Alors, comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux experts des questions internationales, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions politiques depuis Paris. M. Cornu, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à M. Philippe Hougon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui est avec nous également depuis Paris. Monsieur Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bien, nous allons entrer dans le vif du sujet tout de suite avec ma première question à l'égard de Monsieur Bernard Cornu depuis Paris. Alors, Monsieur Cornu, bien sûr, la France qui essaye de vendre des armes très, très sophistiquées à certains pays de la région, en commençant par les Émirats arabes unis, mais également la France va au-delà de là et vend des armes au Maroc, à l'Égypte et à l'Algérie, qui va très certainement déboucher sur l'instabilité et peut-être pas la guerre. Que pensez-vous ?
Disons, moi je suis en général pour un désarmement total et qu'une sécurité organisée au niveau mondial, global, qui couvre non seulement les aspects militaires, mais d'autres aspects de santé et de sécurité contre le banditisme et tout ça. Donc, de toute façon, je suis contre ces ventes d'armes et pour le désarmement global. Mais il est assez logique que la France cherche et le gouvernement actuel cherche à promouvoir des ventes. Notre ministre des Affaires étrangères était député dans une région qui fabriquait des armes et il est très intéressé par ce sujet-là, beaucoup plus que par rechercher la paix, y compris au Yémen ou à la guerre en Syrie où la France est impliquée malheureusement aux côtés des Américains. Et donc face à des pays très riches comme les Émirats, il est aussi logique malheureusement qu'ils cherchent à moderniser leur armement et à s'attirer les faveurs de la France, voilà, malheureusement, face à l'Égypte qui aurait d'autres choses à acheter que des armes et qui n'en a pas vraiment besoin, on peut être beaucoup plus sceptique et disons déçu même de cette attitude de la France. Ce que je remarque, c'est que quand même il y a eu des dialogues politiques dans la dernière tournée du président Macron au Qatar, dans les Émirats et en Arabie Saoudite. Et j'espère que, même si je ne le sais pas, j'espère qu'il a pu discuter avec les Émirats, ce client très fortuné, qui récemment s'est sorti en grande partie de la guerre au Yémen, discuter aussi du conflit en Syrie, puisque un ministre des Émirats s'est rendu récemment à Damas, et dans le but de négociation, donc on ne connaît pas le détail, dans le but peut-être aussi de faire rentrer à nouveau la Syrie dans la Ligue arabe, dont elle était suspendue malheureusement, de façon très injuste. Donc est-ce qu'il y a eu des discussions de paix ? Si effectivement il y a eu ces discussions tendant à trouver des solutions politiques en Syrie, à cesser les combats, cesser les envois de mercenaires, financé par les pays riches du Golfe, alors effectivement cette visite serait positive et je voudrais bien éventuellement, disons, excuser ou pardonner cette vente d'armes que je ne souhaitais pas. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est le dialogue pour la paix avec les pays qui ont une influence dans cette région-là, a priori parce qu'ils ont du pétrole, parce qu'ils ont du gaz et aussi parce qu'ils sont riches et qu'ils ont les moyens de financer des mercenaires, y compris au Yémen d'ailleurs, où le Soudan a été prié d'envoyer des mercenaires sur le terrain. Voilà, donc je pense que ces considérations d'ensemble sont importantes. La paix est prioritaire, les armements ne sont pas nécessaires.
Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hugon depuis Paris. Alors, Philippe Hugon, d'abord, merci d'être avec nous. Alors, le ministre de la Défense s'est rendu en Algérie. Et voilà que maintenant, le président français se rend aux Émirats arabes unis et ont l'audace, tous les deux, de parler de la paix, alors qu'ils sont là pour vendre des armes qui vont certainement déboucher sur l'instabilité et même sur la guerre. Que pensez-vous ?
Oui, alors je pense qu'il faut d'abord se poser cette première équation, c'est de savoir combien rapporte la paix. La paix ne rapporte pas d'argent, la paix, elle en coûte de l'argent. La vente d'armes rapporte énormément d'argent, mais des sommes absolument colossales. Donc on ne va pas passer à côté d'un tel marché. Et quand je dis « on », bien sûr, c'est la France, c'est à la fois les industriels, qui collabore avec les fabricants d'armes et avec les vendeurs d'armes, pardon. Et donc, on peut estimer aujourd'hui que ce marché avec les Émiratis, mais pas seulement avec les Émiratis, c'est le cas avec tous les pays, Maroc, Algérie, tout ce que vous voulez, dès l'instant où vous avez de pareilles sommes en jeu, eh bien, on a un vrai dicton en France, on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Le problème, c'est que la vente de ces armes va obligatoirement créer des zones de tension et va déstabiliser un certain nombre de gouvernements et qui va pouvoir interagir et faire pression sur d'autres pays moins bien équipés, moins bien préparés à la guerre. Alors, il faut savoir qu'on a cette deuxième équation qui est la surpopulation que l'on a à travers le monde, hein. On est bientôt 8 milliards. On sait très bien que la planète ne peut pas supporter un tel poids et que dans les 15 ans qui viennent, il faudra éliminer 4 à 5 milliards de personnes si on veut conserver un certain équilibre. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, on est à l'aube d'une famine mondiale, personne n'en parle, tout le monde fait l'autruche, les mines de phosphore sont en train de s'assécher et on va avoir une période extrêmement instable dans les années qui viennent. La crise financière va nous rattraper également, mais là je pense que ça demandera 5 à 6 ans afin de retrouver une crise absolument gigantesque comme on n'en a pas connu à travers le monde actuellement. Donc on a actuellement une conjoncture de situation qui va nous mettre dans une situation extrêmement complexe. Alors bien sûr que je suis contre la vente de ces armes, hein. On ferait mieux de fournir des produits alimentaires et des médicaments à des pays qui en ont vraiment besoin plutôt que de financer ces armes de mort, puisque ces armes serviront. Il faut bien savoir que ces armes ne sont pas anodines et ces armes vont servir dans les années qui viennent à répandre la mort. Donc je ne peux pas collaborer et cautionner cette vente d'armes. Mais il faut savoir que la France est en faillite financière, qu'on a une situation économique absolument catastrophique. Et comme je vous le disais, l'argent n'a pas d'odeur. Donc quand on peut récupérer des marchés et prendre des marchés à d'autres nations, eh bien on ne va pas se poser la question de savoir si c'est bien ou mal. On continuera de vendre des armes comme on l'a toujours fait. Ce n'est pas, l'histoire ne date pas d'hier, hein. On a vendu des armes en Afrique, on a vendu des armes en Asie, on a vendu des armes de partout. Et si en plus cette vente d'armes permet de rapporter beaucoup beaucoup d'argent et de pouvoir ingérer dans un certain nombre de pays et créer des zones de déstabilisation, que ce soit en Afrique, au Proche-Orient ou en Asie, ce phénomène-là ne pose pas du tout un problème moral à nos politiques et à nos financiers. Donc il faut bien s'attendre à ce que ces ventes d'armes se réalisent d'une façon permanente à un certain nombre de pays qui, je dirais, sont entre guillemets pas respectables.
Oui, vraisemblablement, vous êtes tous les deux contre la vente d'armes, mais le gouvernement français ne voit pas cette affaire de cet œil-là. Bernard Cornu, il faut savoir que quand même, cette vente d'armes s'effectue malgré tout, mais la question qui se pose, Bernard Cornu, est la suivante. Pourquoi cette politique de deux poids deux mesures? D'une part, on envoie des émissaires partout dans le monde pour défendre le droit de l'homme et parler de la paix en Algérie, par exemple, et de l'autre côté, on vend des armes qui vont certainement déboucher sur la mort de centaines et des milliers de personnes.
C'est sûr qu'il y a une contradiction de fond. Nous sommes conscients en France et nous connaissons les violations des droits de l'homme évidentes qui sont dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, le principal, c'est là où il y a le plus de violations, mais aussi d'autres pays riches qui ne respectent pas les droits liés à la pratique des religions, qui ne respectent pas certains droits des femmes. Effectivement, nos pays occidentaux sont un peu hypocrites de pouvoir accepter de vendre des armes à ces pays-là sans discuter fermement, publiquement, des droits de l'homme. Alors certains dirigeants disent qu'ils en discutent en privé en évitant des proclamations publiques. Bon, on ne peut pas rendre compte effectivement de ces discussions privées s'il n'y a pas de communiqué à la suite. Je voudrais quand même nuancer la paix. La paix rapporte de l'argent parce que la paix maintient les clients, alors que la guerre détruit nos clients pour des produits généraux, des réfrigérateurs, des télévisions, de l'alimentaire, des machines et tout ça. La guerre détruit nos clients, détruit l'économie des autres pays et donc elle est très nocive. Et il faut donc promouvoir beaucoup plus la paix pour que l'ensemble du monde se développe. Si les armements génèrent de l'argent, ça les génère pour un secteur très précis de la technologie, très avancé. Pour des gens, les marchands d'armes, on a vu parfois dans des ventes dans différents pays des commissions qui faisaient plusieurs centaines de millions de dollars et qui revenaient en partie vers les politiques qui étaient en connivence avec ces marchands d'armes. Et donc ceci est très dommageable pour la stabilité même de nos pays. Et d'ailleurs, des enquêtes sont encore en cours en France sur des affaires au Pakistan, sur des affaires en Libye. Et donc il est important que la justice aille jusqu'au bout pour dévoiler tout ce qui a entouré ces ventes d'armes. Et d'ailleurs, pendant la guerre Irak-Iran, il y a eu des ventes d'armes actionnées par les Américains, par les Israéliens, pour que le conflit dure. Donc les marchands d'armes sont toujours très présents pour entretenir les guerres et parfois même les démarrer. Et donc ceci doit être analysé de très près. Et chaque fois qu'il y a des actions en justice, il faut les pousser jusqu'au bout. Je pense que l'espérance du monde est que dans une justice qui fonctionne au niveau universel et jusqu'à des chefs d'État, quand ces chefs d'État ont menti, ont abusé de la confiance des gens, ont manipulé les médias pour provoquer des guerres.
Bernard Cornu, revenons encore une fois à cette vente d'armes par la France à certains pays, dont l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis tout récemment. Mais tout reste à savoir, Bernard Cornu, que cette vente d'armes onéreuses est parfaitement calibrée par la France et, oui ou non, poussée par Israël. Car Israël a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région. Que pensez-vous ?
C'est difficile à répondre parce que c'est vrai qu'au Maroc, il y a toujours eu des relations maintenues entre le Maroc et le royaume du Maroc et l'État d'Israël, où il y a de nombreuses communautés marocaines. Il y a eu des visites d'État, enfin de ministres, il y a des connivences importantes entre le Maroc et Israël. Donc, à l'opposé, l'Algérie a toujours soutenu, par exemple, le mouvement palestinien. On l'a vu encore récemment lorsque l'Algérie a gagné une coupe de football arabe contre le Maroc et que tous les joueurs se sont déployés sur le terrain en affichant non seulement le drapeau algérien mais aussi un grand drapeau palestinien. Donc ceci était une façon symbolique de s'opposer à la position non pas du peuple marocain mais des autorités marocaines qui facilitent leurs relations avec Israël et établissent des connivences avec les services secrets israéliens. On l'a vu récemment avec les publications sur le réseau, l'utilisation du logiciel d'origine israélienne Pegasus. Donc je pense que dans certains pays, il y a des connivences entre les marchands d'armes, même les autorités françaises du ministère des Affaires étrangères et les autorités israéliennes. Dans le cas des Émirats, c'est moins sûr. C'est sûr que suite aux actions de temps de Trump et de son gendre Kouchner, il y a eu le rétablissement de certaines relations diplomatiques. Mais je pense que, en général, la population arabe est tout à fait contre, et même dans les pays riches, est tout à fait contre cette normalisation avec l'État d'Israël tant que la justice ne s'est pas exercée pour rétablir les droits des Palestiniens. Voilà, mais c'est une lutte permanente des peuples issus en Occident aussi pour imposer la priorité à la justice et non pas à l'économie et aux ventes d'armes.
Oui.
Philippe, il y a des grandes manifestations à Londres. D'ailleurs, je fais partie d'un mouvement à Londres conduit par la gauche anglaise contre les guerres qui fait très souvent des manifestations. Et en France aussi, il y a des manifestations nombreuses aussi du mouvement de la paix pour protester contre ces ventes d'armes et l'incitation à laisser continuer des guerres comme au Yémen ou en Syrie ou en Irak pour des intérêts économiques.
Oui, tout à fait. Philippe Hugo, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie, à cet égard, comme la France nourrit en armes le Maroc et l'Algérie. L'Algérie qui soutient la cause palestinienne et le Maroc qui a rétabli sa relation avec Israël. En nourrissant ces deux pays-là, je crois qu'on nourrit le différend qui devrait donc continuer entre ces deux pays-là. Que pensez-vous ?
Oui, alors, vous savez, c'est ce que je vous disais, l'argent n'a pas d'odeur. Aujourd'hui, la France vend des armes à n'importe qui et il suffit de passer par des sociétés dans des paradis fiscaux qui permettent de contourner un certain nombre de lois. Ça, moi, j'en ai été témoin lorsque j'avais mon entreprise d'exportation. Eh bien, pour éviter les sanctions, on passait par des sociétés annexes ou de petites sociétés. Il y a même des grosses sociétés françaises qui passaient par ma petite société pour vendre un certain nombre de produits à certains pays qui étaient sur liste rouge. Donc là, je suis bien placé pour en parler et de savoir comment se passent les choses aujourd'hui. Alors, bien sûr, il est clair que la France ne renoncera jamais à la vente de ces gros contrats, quel que soit le prix à payer en vie humaine pour un certain nombre de pays. Vous savez, je crois que on est aujourd'hui dans la société occidentale, une société qui est basée sur l'argent, où le statut de valeur de l'être humain se joue sur la grosseur de son compte en banque. Donc on sait très bien que tous les pays qui ont basé leur valeur naturelle sur l'argent, leur valeur de base sur l'argent, sont des pays qui se sont tous effondrés, puisque l'argent n'est pas une bonne valeur de référence sur la qualité des gens et des peuples. Au contraire, cet argent, elle corrompt les gens, elle pourrit les gens, et elle fait prendre des décisions à des gouvernements qui ne sont pas de bonnes décisions. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement néfaste ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on ferait beaucoup mieux d'investir de l'argent dans la paix, de façon à trouver des solutions pérennes et de ne pas affamer les gens, de ne pas... c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Vous allez en Afrique, vous savez, j'ai eu un bureau à une époque au Bénin, en Afrique, et on a vu comment les choses se passaient au Mali, comment les choses se passaient au Niger, donc on sait très bien qu'il existe des solutions. Le problème, c'est qu'on ne veut pas les appliquer, parce que ce sont des solutions qui ne rapportent rien. Du moins, ça pourrait rapporter à long terme, mais à très court terme, ça ne rapporte rien. Et aujourd'hui, toutes ces sociétés qui vendent des armes... Oui.
Et Philippe Hugon, justement, la même question que j'ai posée à Bernard Cornu à cet égard, c'est cette vente d'armes qui est calibrée, organisée par la France à ces pays-là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est encouragé et même poussé par Israël qui a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région ?
Alors en ce qui concerne le Proche-Orient, c'est autre chose. Il est vrai qu'Israël est dans une position économique qui est effroyable, hein. Il suffit de regarder les ratios financiers d'Israël. C'est un pays qui n'existe et qui ne tient que par l'aide américaine aujourd'hui, et qu'Israël a tout intérêt à créer des zones de stabilité au Proche-Orient afin de pouvoir conserver ses frontières et son pays. On sait très bien que le jour où la Ligue arabe et tous les pays arabes seront solidaires, je ne donne pas cher de la continuité de ce pays. De toute façon, il ne faut pas vous faire des illusions. Dans 20 ans, Israël n'existera plus sous cette forme actuelle. Et Israël ne pourra plus tenir, car c'est une situation intenable. Quand on tient un pays par la force, et c'est le cas notamment d'Israël, on l'a vu dans les pays communistes notamment, il arrive un moment donné où vous arrivez dans une position qui est intenable, intenable financièrement, intenable économiquement, intenable militairement. Donc pour l'instant, si Israël existe encore, c'est parce qu'il y a des dissensions dans les nations arabes au Proche-Orient. Le jour où ces nations là seront réunis et seront solidaires notamment de la Palestine, eh bien je donne pas cher de la situation d'Israël dans sa forme actuelle, j'entends, hein. Donc il est clair que Israël a tout à gagner à ce qu'il y ait une situation instable au Proche-Orient.
Bernard Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir à cet égard, je vous prie?
Bon, il faut savoir que dans l'industrie d'armement, il y a beaucoup d'électronique. Et que l'électronique, c'est très compliqué à comprendre les codes informatiques, le codage informatique qui est à l'intérieur de ces, de toute cette partie électronique. Donc, d'une part, il est sûr que Dassault était dirigé avant par un juif français qui avait vendu les Mirage et les autres avions à Israël, et à une époque où la France, disons un peu avant De Gaulle, était tout à fait favorable géopolitiquement à l'État d'Israël et donnait des faveurs exceptionnelles pour ses ventes d'armes. Et à partir du moment où De Gaulle a commencé à vouloir refuser et limiter ses ventes d'armes, il y a eu même des détournements. On a connu l'épisode des frégates de Cherbourg qui ont été prises contre la volonté française et emmenée discrètement en quelques jours par des équipes israéliennes qui ont fait ce coup de force. Donc, il est difficile de dans ces codages informatiques qui sont dans les armements, je pense qu'il y a de toute façon à la main du ministère de la Défense français la possibilité à distance de télécommander certaines de ces fonctions informatiques. Par exemple, pour le cas où les Émirats arabes unis voudraient attaquer un pays très ami de la France, très allié de la France, comme le Liban ou la Grèce, pour des raisons tout à fait imaginaires actuellement, mais je suis sûr qu'à distance, on peut tout à fait manipuler ces dispositifs informatiques, ces codes informatiques, pour empêcher toute utilisation contre nos propres intérêts. Donc je pense que tous ces armements sont des leurres, parce qu'il y a beaucoup d'informatique qu'il est très difficile à décoder, donc il est possible qu'on se fasse rouler, en fait, que tout acheteur de ces armements sophistiqués se fasse rouler, qu'il ne puisse pas. Alors il peut effectivement dans des conflits dans lesquels la France n'aurait pas d'alliés, ça pourrait servir, mais dans des conflits où la France aurait des alliés, ça pourrait être désarmé à distance. Ça, j'en suis persuadé, c'est une évidence de l'informatique très complexe des systèmes d'armes modernes.
Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à M. Philippe Hugon, qui était également avec nous depuis Paris, d'avoir apporté donc ces explications à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Ali Ashraf Darvishian, l'écrivain régionaliste engagé contemporain. En septembre 1941, à Kermanshah, Ali Ashraf Darvishian vit le jour dans une famille pauvre. Son père était forgeron, mais il perdit son travail et changea plusieurs fois d'occupation. En tant qu'aîné de la famille, il partit avec son père à Téhéran. Enfant, son père et sa grand-mère lui racontaient des histoires et depuis ses premières années, il fut attiré par les livres et les histoires. La famille menait une vie très spartiate et il devait travailler dur pour gagner de quoi acheter quelques livres. Il devint par la suite maître d'école et continua ses études jusqu'à l'obtention de sa maîtrise à l'École normale supérieure de Téhéran et obtint également une maîtrise de psychologie à l'Université de Téhéran. En 1971, il fut emprisonné 8 mois à cause de ses activités politiques à l'université et de son recueil de nouvelles intitulé « De cette région », Azin Velayat. Après 2 mois,
il fut de nouveau emprisonné et condamné à 7 mois de prison. On le renvoya de l'université et il perdit définitivement son emploi. Toutefois, il ne cessa d'écrire des articles, des romans et des nouvelles, même en prison. Il fut ensuite condamné pour la 3e fois à 11 ans de prison. Mais grâce à la révolution islamique de 1979, il ne purgea pas l'intégralité de sa peine. Écrivain réaliste et engagé, Ali Ashraf Darvishian a écrit de nombreuses œuvres, dont des recueils de nouvelles. De cette région, 1973, Obshuran, 1973, Avec les musiques de mon père, 1979, des romans, La cellule 18, 1979, Les années nuageuses, 1991, ou encore le dictionnaire du dialecte kermanshahien, les fables et les proverbes kurdes en 2 volumes, et le dictionnaire des fables iraniennes en 15 volumes, avec la collaboration de Reza Khandan Mahabadi. Il a également publié de nombreuses histoires pour enfants. Cependant, Darvishian est avant tout un écrivain régionaliste. Il porte un grand intérêt aux traditions et coutumes des Iraniens. C'est ce même intérêt qui l'a amené à rédiger les fables et les proverbes kurdes, le dictionnaire du dialecte kermanshahien et le dictionnaire des fables iraniennes. Les recherches qu'il a menées dans le domaine du folklore ont été saluées par de nombreux historiens et chercheurs. La quasi-totalité des histoires de Darvishian se déroule à Kermanshah, ville située à l'est de l'Iran et dont la majorité des habitants parlent le kurde. Son œuvre concerne les Kurdes, leurs habitudes, leurs croyances et même leurs problèmes sociaux et politiques. En lisant son œuvre, le lecteur s'initie aux croyances et aux coutumes du peuple de cette région. Certains des personnages de ses nouvelles existaient dans la vie réelle. Elle permet également au lecteur de se familiariser avec les mots, expressions et les vers kurdes utilisés par les personnages de ses récits. Au travers de son œuvre, Darvishian a essayé de mieux faire connaître les éléments folkloriques de la culture et l'histoire de Kermanshah. Son succès dans la littérature régionaliste est lié à la connaissance profonde qu'il avait de sa région. Ses œuvres les plus appréciées, ses nouvelles, ont été inspirées des souvenirs de son enfance ainsi que de son expérience de maître au sein des petits villages de l'est de l'Iran. Pour tenter de faire percevoir au lecteur la réalité locale de la façon la plus concrète, Darvishian choisit ses personnages parmi les gens de la rue. Et c'est toujours le pronom « je » ou un narrateur fictif qui raconte l'histoire. Dans la majorité de ses nouvelles, Darvishian aborde un thème de façon récurrente, celui de la pauvreté. La première histoire de son recueil de cette région, intitulée « Nadarad », met en scène un petit garçon qui s'appelle symboliquement Niaz Ali Nadarad. Niaz signifie le besoin et Nadarad veut dire il n'a pas et qui est dépourvu de tout bien. Au travers de l'histoire de cet enfant, Darvishian expose les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivaient les gens de cette région à cette époque. Niaz Ali est malade et vomit du sang. Son cahier d'écriture est composé de papiers trouvés dans les poubelles de l'école. Son seul jouet est une balle faite d'un papier noir chiffonné à laquelle il a attaché un fil. Son père est très vieux et n'a pas de travail. Mache Barer, le commerçant que Niaz Ali voit dans son rêve devenir un monstre, symbolise les exploiteurs et les tyrans. Enfin, un jour d'hiver, son maître, qui est également le narrateur, comprend que Nadarad est mort hier soir. Ici, la tragédie de Nadarad arrive à son point culminant. À la fois réaliste, humaniste, symbolique, critique et révolutionnaire, cette histoire dans laquelle la sensibilité et la piété se côtoient est en quelque sorte de tout un peuple tout au long de l'histoire. La tombe du Zoroastrien nous présente l'histoire de paysans pauvres qui, au lieu de gagner leur vie à cultiver des terres, creusent les tombes des Zoroastriens et volent leurs bijoux et objets précieux. Ils ne sont pas conscients du fait que cette pauvreté leur est imposée et qu'ils ne s'en délivreront jamais. Dans le conte Kakemorad, la pauvre Kakemorad, qui a emprunté de l'argent à la banque pour acheter un poêle et des bonbons pour ses enfants, se noie dans la rivière. Quand les habitants des villages proches voient son corps à la dérive, ils s'agrippaient toujours à son paquet et au poêle. Si elle avait laissé le poêle, elle aurait pu se sauver. Mais dans la société que Darvishian nous dépeint, la valeur de l'argent est plus que celle de la vie des hommes. Le but de Darvishian est de faire une révolution dans les pensées et non pas dans l'art. Il met son écriture au service de la société et de la politique. Par son écriture, il se révolte contre les systèmes politiques de l'époque de Shah. Il perd son travail, laisse ses études à l'université et supporte la prison. Mais ne renonce pas à se révolter, soit par sa plume, soit par l'action politique directe. Au lieu d'avoir des certificats universitaires, Ali Ashraf Darvishian préfère acquérir la médaille de la lutte contre la pauvreté, l'injustice et l'inégalité. C'est tout pour cette semaine. La prochaine fois, nous poursuivrons notre étude sur Ali Ashraf Darvishian. Thank you.